Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview que vous écoutez actuellement sur les ondes en 107.5. Ou alors, vous pouvez aussi écouter l'émission en mise en podcast sur le site rdwa.fr. Au téléphone, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Jean Tafazoli. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous êtes d'abord, avant tout, médecin généraliste à Lyon et vous êtes aussi président de maquestionmedicale.fr. Donc, vous êtes là pour nous présenter un cabinet médical virtuel qui se situe à Saint-Nazaire-le-Désert.
Oui, tout à fait. Alors, Saint-Nazaire-le-Désert, qui est une petite commune dans la Drôme, qui comme beaucoup de communes en France, donc manque cruellement de présence médicale, puisque les médecins les plus proches se retrouvent à 30 km. Le maire de la commune de Saint-Nazaire-le-Désert, qui porte bien son nom, nous a demandé si on pouvait équiper sa commune avec un kit de télémédecine, donc un kit qui permet de réaliser des consultations, hein, de véritables consultations avec les médecins les plus proches de cette commune, mais également avec les médecins de garde lorsque ces médecins ne sont pas disponibles.
On précisera quand même avant tout que vous n'êtes pas une substitution du médecin traitant. Vous êtes là pour intervenir dans l'urgence pour certaines situations.
Alors tout à fait. Dans l'urgence ou au quotidien, évidemment pas toutes les situations. On ne peut pas gérer les urgences médicales, les urgences chirurgicales. On ne peut pas gérer une hémorragie, par exemple, ou une plaie, hein, en télémédecine. On ne se substitue pas aux médecins traitants pour une raison évidente, c'est qu'on, chez maquestionmedicale, qui est une société financée à 100% par des professionnels de santé, notre déontologie veut que l'on respecte parfaitement la législation, qui est celle du parcours de soins. Et donc nous associons les médecins des territoires à notre plateforme, hein. Si je puis dire, on les absorbe s'ils veulent bien participer à l'aventure. Donc on leur donne les outils, hein. Il suffit pour eux de s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir consulter les patients des territoires concernés. Évidemment, lorsque cela ne suffit pas, c'est par exemple le cas, hein, pour Saint-Nazaire, des médecins de garde avec des gardes territorialisées, hein, des gardes régionales, interviennent pour, si je puis dire, remplir les trous, hein, remplir les moments où il n'y a pas de médecin disponible. Grâce à ce système, nous pouvons apporter une réponse médicale immédiate, quasiment immédiate, hein, dans les 3 à 6 minutes, aux patients qui vont téléconsulter en utilisant notre kit de télémédecine.
Avant de continuer, nous allons présenter aussi maquestionmedicale.fr, un site internet donc qui permet le lien entre le patient et le médecin. Ce site a été financé principalement par le Love Money. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous présenter ce principe de financement?
Oui. Alors, il faut savoir que ma question médicale a été créée initialement par 2 médecins, donc Vincent Heuillet et moi-même, Jean Tafazoli, et puis 3 ingénieurs. Donc, on se connaissait tous, hein, on était une petite équipe de joyeux lurons, si je puis dire. Et en 2018, on a eu cette idée de se mettre autour d'une table et de dire, bon, on va créer le parcours de soins digital, hein, le cabinet virtuel de demain, alors qui, comme vous l'avez dit, va relier le patient à son médecin et vice-versa, mais également aux pharmacies, à l'infirmier, à tous les acteurs de santé d'un territoire donné. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait absolument qu'il existe un moyen de communication sécurisé entre le médecin et le patient pour remplacer ce qu'on appelle un peu les consultations de couloir, pour remplacer les consultations par téléphone qui ne permettent pas de prescrire, qui ne permettent pas de facturer, qui ne permettent pas de créer par exemple des documents CERFA, mais également d'avoir un outil qui permette de consulter consulter à distance, par exemple dans le cadre des arts médicaux, et qui soit un outil mobile. Par exemple, si je vais du cabinet à l'EHPAD, j'aimerais pouvoir utiliser le même logiciel sur mon téléphone, sur mon PC, sur ma tablette, en tant que médecin. Donc, ce projet donc que nous avons réalisé hein, entre 2018 et 2021, il fallait le financer. Le modèle très répandu, c'est le modèle d'un fonds d'investissement ou d'un GAFA ou d'une mutuelle qui crée une société de télémédecine, en général assez verticale, où les médecins ne sont finalement que les salariés d'une plateforme donc qui définit ses règles du jeu. En ce qui nous concerne, on est dans l'équipe, on est déjà dans les dirigeants, plusieurs professionnels de santé, et on s'est dit qu'il fallait associer les autres soignants, les autres professionnels de santé à notre projet. Et effectivement, très rapidement, on s'est tourné vers nos confrères. On a créé une SAS, hein, une société par action simplifiée, et nos confrères ont apporté en quelques mois plus de 600 000 euros. Ces fonds ont été complétés ensuite par la BPI, hein, la banque d'investissement, et donc ça nous a permis. On a levé quasiment 1 million d'euros hein, sur l'année 2020. Ça nous a permis de créer ce fameux logiciel, et puis de créer aussi du matériel connecté, hein, le kit de télémédecine qui va avec lequel on a commencé à équiper des pharmacies, des mairies, des EHPAD.
Actuellement, quelle est votre étendue d'action pour ma question médicale ?
Alors, ma question médicale actuellement regroupe environ 3000 médecins en France, hein, sur tous les territoires de France, et tous les jours, on a des nouvelles inscriptions. En nombre de téléconsultations, là, on avoisine les 200 000 téléconsultations réalisées, alors essentiellement sur le secteur libéral, hein, on a beaucoup de médecins libéraux, donc forcément, c'est majoritairement libéral, mais on est aussi ouvert à des cliniques ou à des hôpitaux. Voilà, en termes de pharmacie, nous avons signé avec un peu moins d'une dizaine de groupements de pharmacies en France. C'est-à-dire que les pharmacies sont regroupées en groupements. Voilà, il y a environ une dizaine de groupements sur à peu près 50 groupements qui ont signé avec nous des partenariats et qui vont progressivement équiper toutes leurs pharmacies au cours de l'année 2021 avec l'équipe de télémédecine. Au niveau des mairies, c'est des opérations pilotes, hein, comme celle de Saint-Nazaire-le-Désert. On commence juste à équiper des mairies, mais ça se passe très bien. On en a équipé deux dans le sud et donc dans le parc du Mercantour et puis là dans la Drôme. À savoir que celle de Saint-Nazaire était la mairie, la première mairie qui nous a contactés en France. Hein. C'est vraiment la pilote des pilotes. Mais ils ont, il faut le dire, une situation géographique très particulière. Et au niveau maintenant des EHPAD, on vient de terminer en fait notre évaluation avec les cabinets d'infirmiers et les EHPAD, et on commence par deux EHPAD là sur la région lyonnaise qu'on va équiper, mais effectivement on peut désormais équiper aussi les EHPAD. Et enfin, il y a des comités d'entreprise qui nous ont demandé si on pouvait les équiper. Ça, ce sera pour les mois à venir, mais on a commencé déjà à prendre des contacts.
Alors Saint-Nazaire-le-Désert étant la première ville, ou du moins la première municipalité à vous avoir contacté, quelle était sa problématique proprement dite ? J'imagine qu'il n'y avait pas de médecin.
Alors Saint-Nazaire-le-Désert, c'est un très beau village, hein, qui vous donne voilà une vue splendide sur la ce qu'on appelait autrefois la route de Napoléon, hein, qui descend jusqu'à Nice. Mais la problématique, c'est que ce village est perché dans les hauteurs et donc quelque part entre Gap et Die, et donc les médecins les plus proches sont dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants, donc qui sont en tout cas plus de 30 km autour. Le problème de Saint-Nazaire-le-Désert, c'est qu'ils ont une mairie, ils ont un centre social, ils ont une pharmacie, ils ont pas mal de services, hein, et c'est très touristique l'été, mais ils n'ont plus malheureusement de médecins depuis quelques années déjà. Donc, ça, c'est également le cas, hein, des petites municipalités aux alentours. Donc, le maire de cette commune s'était un peu organisé pour que des médecins d'autres agglomérations puissent venir une fois par semaine, par exemple, en visite sur la commune. C'était assez compliqué. Quand il a découvert le kit de télémédecine de Ma Question Médicale, ça a fait tilt, si je puis dire. Alors, non seulement pour le quotidien, mais également pour l'augmentation de population qui se produit en été. Pouvoir transformer un local dans la municipalité de Saint-Nazaire en un véritable petit cabinet virtuel où les administrés, donc les patients, peuvent venir consulter un médecin, alors soit leur médecin habituel qui est malheureusement trop loin pour qu'ils aillent le voir systématiquement, soit le médecin de garde. C'était vraiment pour Saint-Nazaire une solution inédite et la plus pratique, hein, la plus cohérente avec la problématique de la mairie.
Concrètement, vous proposez donc un kit IoT, Internet des objets, l'Internet des objets. En quoi consiste le matériel mis à disposition du patient pour établir un contact avec vous et diagnostiquer ?
Alors, comme je l'ai dit précédemment, Ma Question Médicale, c'est avant tout un logiciel, hein, qui peut s'afficher sur votre téléphone. Il y a une application iOS, pour les iPhones, il y a une application Android, il y a le site internet, donc tout le monde peut accéder, peut aller s'inscrire sur le site. Ça, vous allez juste sur maquestionmedicale.fr et vous pouvez le faire. Par contre, ça ne permet pas au médecin de vous examiner. Hein. Quand on va chez le médecin, il y a la partie, ce qu'on appelle nous l'anamnèse, c'est-à-dire la discussion avec le patient, qui nous apporte un certain nombre d'éléments, et puis il y a la partie examen clinique. Très rapidement, nous, on s'est dit qu'il fallait développer en parallèle des outils connectés qui, un peu comme à l'exemple des oreillettes, hein, que vous connectez à votre téléphone, viennent se connecter à un PC et vont pouvoir vous prendre la tension, mesurer votre saturométrie en oxygène, vous prendre par exemple la photo d'une plaie, hein. Donc on a développé quatre objets, hein, les quatre premiers objets qui étaient désignés par la CPM, hein, on n'est pas allé chercher des idées farfelues. Donc on a développé un tensiomètre Bluetooth, un saturomètre Bluetooth, une caméra donc qui peut servir d'endoscope, d'otoscope ou simplement qui peut servir de seconde caméra, hein, pour regarder dans les oreilles, dans la gorge ou au niveau d'une plaie. Et puis enfin, une petite merveille de technologie, on a un stéthoscope Bluetooth, hein, qui est une sphère que le patient pose sur son thorax et qui envoie directement les bruits du cœur et des poumons et une analyse des données au médecin. Alors tout cela à travers un PC d'une grande marque que je ne vais pas citer, mais dont les initiales sont H et P. Et donc ce PC renvoie en fait les données au médecin qui est de l'autre côté donc il y a son interface depuis son cabinet ou depuis son domicile et qui répond au patient.
D'ailleurs, les données, vous mentionnez sur votre site qu'elles n'étaient pas conservées, hein, les données médicales.
C'est ça. Alors, on a fait un choix, toujours dans ce souci de déontologie, on s'est posé la question du pourquoi de la conservation des données du côté du tiers, c'est-à-dire de celui qui met en relation le patient et le médecin. Aujourd'hui, toutes les plateformes conservent les données, alors que finalement, dans la loi, l'obligation de conservation des données médicales, elle est surtout pour votre médecin. Votre médecin a l'obligation légale de conserver le fait que vous avez eu telle ou telle pathologie à telle date, et ce pendant 40 ans. Mais il n'y a pas d'obligation légale pour une plateforme de conserver ces données. Il y a obligation légale en revanche de pouvoir répondre aux instances si oui ou non il y a eu consultation et quel a été le type de consultation. Est-ce qu'il y a eu des générations d'ordonnances ou pas ? Ça veut dire que finalement, nous, on s'est posé la question du bien fondé de conserver vos données. On a finalement fait le choix de laisser le médecin exporter vers son logiciel métier, donc son logiciel de cabinet, les données dont il a besoin, puis de les supprimer de la plateforme. On ne garde qu'un log, c'est-à-dire la date, l'heure, et le fait que vous avez consulté avec tel médecin, est-ce qu'il y a eu échange de documents ou pas. Voilà, ça c'est les seules données, les seules traces, si vous voulez, on garde une trace, mais on ne garde pas le contenu de vos consultations. On en a fait d'ailleurs notre cheval de bataille. Il n'y a aucun risque comme ça qu'on aille vendre des données, qu'elles soient anonymisées ou pas, puisque de toute façon, on ne conserve pas de données médicales pour la télémédecine chez Ma Question Médicale.
Tout à l'heure, vous disiez donc avoir, établi un protocole de diagnostic en collaboration avec la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est ça ? Mm-hmm. Et donc, je voulais savoir, quelle est la prise en charge vis-à-vis du patient par rapport à ce type de soins ?
Alors, c'est simple, chez nous, il n'y a pas d'abonnement. Moi, je voulais un outil qui soit à la fois simple et dont les coûts soient cohérents. Quand vous consultez chez votre médecin, vous payez en cabinet 25 euros. En téléconsultation, c'est le même acte, hein, c'est le même tarif. Il n'y a aucune raison, à mon sens, que le patient ait à payer un acte surajouté d'un quelconque forfait, d'un quelconque montant. Donc, quand vous payez sur Ma Question Médicale avec votre carte bleue, par exemple, vous êtes remboursé, hein, de la même manière qu'en cabinet, vos 25 euros de consultation. Si c'est un autre acte que la consultation standard, de la même manière, vous aurez votre remboursement sécurité sociale et mutuelle, comme, j'ai envie de dire, comme dans la réalité présentielle, hein, dans les cabinets médicaux. Le modèle économique de Ma Question Médicale, c'est qu'on va aller chercher un petit pourcentage de transactions qu'on prend au médecin qui, lui, en fait, hein, gagne des sous en réalisant les consultations, évidemment, puisque c'est son métier. Donc, il n'y a pas d'abonnement côté médecin, simplement un pourcentage sur les transactions qu'il réalise, et il n'y a pas d'abonnement ou de surcoût côté patient. J'ai envie de dire que pour le patient, quelque part, c'est gratuit, mais même si ce mot est pas vraiment adapté dans le secteur de la santé, puisque quelque part c'est quand même la sécurité sociale qui paye, donc ce sont nos prélèvements, mais voilà, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de coût ajouté. Par ailleurs et parallèlement, on a développé des outils de tiers payants, hein, c'est-à-dire que pour les gens qui sont en CMU, en ACS ou en ALD, ou dans toute autre situation où le médecin peut réaliser un tiers payant, là par exemple pour les consultations liées au Covid, la plateforme maquestionmedicale.fr permet au médecin de réaliser un tiers payant et dans ce cas-là le patient évidemment en est informé, donc la CPM paye directement le médecin et le patient n'a rien à débourser en fait après sa consultation.
C'est en quelque sorte une dématérialisation de l'acte médical, ce processus de diagnostic par Ma Question Médicale.
Alors, on peut voir ça comme une dématérialisation, une digitalisation du soin. Ceci dit, il faudrait pas penser qu'on est venu remplacer la consultation présentielle, la consultation en cabinet totalement par la télémédecine. Y compris dans les déserts médicaux, il y aura toujours besoin, par exemple, de la visite à domicile. Hein, le travail formidable que font les gens, par exemple, comme chez SOS Médecins en province ou Urgence de Paris, par exemple, le travail de visite à domicile, y compris aussi les visites à domicile des médecins généralistes, sera toujours nécessaire. Les consultations en cabinet seront toujours nécessaires. Les actes de chirurgie ne pourront évidemment pas être réalisés pour les petits actes quotidiens comme les sutures par exemple qui se réalisent en cabinet ne pourront pas être réalisés par télémédecine. Par contre, effectivement, l'infection urinaire du vendredi soir 20h, le renouvellement d'un traitement pour un patient diabétique correctement suivi, des exemples comme voilà des piqûres d'insectes, des pathologies courantes, je pense notamment à de nombreuses pathologies ostéo-articulaires, hein, tout ce qui est lombalgie par exemple, tout ça peut être pris en charge en télémédecine. Il y a tout un tas d'autres exemples, hein, les certificats médicaux pour les enfants, enfin beaucoup d'exemples de problématiques médicales qui peuvent être prises en charge en télémédecine. Ça permet à votre médecin de mieux s'organiser, ça permet également une communication entre soignants, puisque le médecin via la plateforme peut être directement en contact avec le pharmacien ou l'infirmier, et ça permet surtout de garder une traçabilité également du soin. Ça permet d'éviter également voilà que des consultations aient lieu par téléphone sans aucune traçabilité, sans aucune sécurité, ou par mail, hein. J'entendais pendant la crise Covid que certains faisaient des consultations par mail. Pour moi, le mail n'est ni sécurisé ni un outil vraiment optimisé pour la médecine, ni même d'ailleurs les réseaux sociaux comme Skype ou WhatsApp ou autres. Voilà, on a désormais une vraie plateforme de vrais outils d'examen clinique à distance, de communication à distance, dans un cadre sécurisé, avec un financement qui est transparent, une stratégie déontologique. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à l'utiliser.
Est-ce que ma question médicale serait l'alternative du futur ?
Alors, je pense que clairement, oui, la télémédecine et ma question médicale que je porte sont des solutions. C'est une solution globalement qui, à mon avis, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis, va permettre d'atteindre les patients même dans les zones les plus reculées. Pour moi, c'est un petit peu le même type de révolution que quand on est passé du Minitel à Internet ou l'arrivée du téléphone. C'est-à-dire que désormais, on est en capacité, en tant que patient, de s'adresser à un médecin où que l'on soit. Hein, vous pouvez être en haut de l'Everest ou dans votre chambre, donc où que vous soyez, et à tout moment. Hein, il y a aussi cette notion de temps. Donc géographiquement ou dans le temps, vous avez en tant que patient la possibilité d'avoir une réponse médicale. Hein, d'ailleurs, le site s'appelle Ma Question Médicale. Il porte bien son nom. C'est apporter la santé partout, à tous et à tout moment. Et donc, ça, pour le patient, je pense que c'est une véritable petite révolution. Pouvoir en plus rajouter du matériel connecté, des appareils. On travaille actuellement sur l'électrocardiogramme Bluetooth. On travaille sur d'autres appareils pour les sages-femmes, par exemple, hein, les tachographes Bluetooth. Donc pouvoir en plus voilà faire du suivi de grossesse, par exemple, demain à distance, faire du suivi d'un patient diabétique à distance, pouvoir suivre un patient qu'on a opéré à distance, c'est une véritable révolution pour le patient. Pouvoir promettre à des petits villages isolés qui de toute façon n'ont pas de médecins, soit n'ont pas de suffisamment de soignants sur leur territoire, pouvoir leur apporter un outil complémentaire, des soignants qui sont à distance mais qui pourront travailler sous forme de réseau avec ces municipalités, c'est également une révolution côté soignants et côté toutes les instances des professionnels de santé. C'est-à-dire que c'est plus un généraliste pour un petit village donné, c'est un généraliste qui couvre un territoire, un généraliste qui travaille avec ses confrères, autres généralistes sur le territoire, qui travaille également avec les autres spécialistes, puisqu'on a aussi des spécialistes sur la plateforme, et qui va travailler aussi en réseau avec les infirmières, les pharmaciens, toutes les personnes qui sont sur un territoire donné. Voilà, on ne se limite plus à un médecin dans une rue, dans un village.
Alors, il y a une mise à disposition d'un local, forcément, par la municipalité. Ce local étant équipé de matériel, on peut estimer à combien, pour un village de quelques centaines d'habitants, le coût de l'investissement ?
Alors c'est simple, hein. Nous notre kit il a un prix public à 1 890 € hors taxes. Il existe en plus en fonction des situations, des aides, des ARS, des régions et puis de la CPAM pour l'aide à l'équipement. Derrière cela vient s'ajouter un petit abonnement de 69 € qu'on est obligé de mettre en place pour le suivi du matériel et puis pour toutes les problématiques de service client, de support, de formation des personnes. On est obligé de mettre en place un abonnement pour pour la pharmacie ou la municipalité qui détient le kit. C'est très rapidement amorti, hein, puisque par exemple pour les pharmacies, le coût des ordonnances, enfin le bénéfice sur les ordonnances et les aides viennent très rapidement dépassent, hein, leur montant dépasse le coût de cet abonnement. Pour les médecins, je l'ai dit, voilà, c'est un petit pourcentage de transactions sur leur chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme. Et pour le patient, il n'y a pas de surcoût. Globalement, si on prend un contrat sur 5 ans, hein, pour une mairie, on est à moins de 5 000 €. Voilà. Donc ça reste des coûts très modestes pour des municipalités ou des collectivités locales, et y compris pour des pharmacies, hein, puisque dans certains villages c'est les pharmacies qui s'équipent. Ça reste des coûts qui ne sont sans aucune mesure comparables aux autres solutions qui existent sur le marché ou à d'autres types de solutions d'incitation à faire venir des médecins.
Du fait même de vouloir pratiquer à distance ces soins par le réseau Internet, est-ce qu'il y a aussi possibilité de livraison des médicaments toujours dans le même principe justement, ouais. Et pour ça, pour des villages justement où il n'y a pas de pharmacie par exemple.
Alors peut-être faire une question séparée parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Alors. Concernant Saint-Nazaire-le-Désert, il existe effectivement une pharmacie, hein, au centre du village. Simplement, la municipalité, en concertation avec la pharmacie et puis avec les médecins des alentours, a décidé que le mieux serait d'installer le kit de télémédecine dans un local de confidentialité, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'entendre ce qui se passe lors de la consultation. Donc, dans un local qui est géré par le service social de la mairie. Ça permet notamment aux personnes de troisième âge d'être accompagnées par un membre du personnel social de la mairie et notamment de les aider pour la première inscription, de répondre à leurs questions, donc évidemment nous avons formé, hein, ces personnels, hein, il s'agit de deux jeunes femmes qui ont été formées par nos équipes, hein, ça fait partie de notre contrat. Et donc, ça permet d'amener à la population de manière peut-être plus ludique et puis aussi avec plus de confiance, d'amener à la population donc la télémédecine. La question qui se pose aussi pour l'avenir, c'est notamment pour cette population âgée ou pour les gens qui sont alités, qui sont malades. On l'a vu pendant le Covid, il y a des gens qui ne sont pas sortis de chez eux pendant 15 jours. Donc la pharmacie numérique, avec le sujet par exemple de la sécurité des ordonnances. Donc la sécurité des ordonnances, très rapidement, les pharmaciens nous ont demandé de nous assurer que les ordonnances qui étaient imprimées par les patients ne puissent pas être délivrées plusieurs fois. Donc pour cela, ma question médicale a développé une technologie dès janvier 2020. Avec un QR code en bas de chaque ordonnance de ma question médicale qui, flashé avec la douchette du pharmacien, permet à celui-ci de savoir si cette ordonnance a déjà été délivrée par un confrère ou pas. Donc ça, c'est l'aspect sécurité. Ensuite, il y a l'aspect des données que le médecin et le pharmacien peuvent s'échanger. Hein, ça nous arrive à tous d'aller voir d'abord un médecin, d'aller voir le pharmacien, et le pharmacien, ne sachant pas pour quelle raison a été prescrit ce médicament, va vous poser des questions, essayer de savoir un petit peu dans quel cadre a été prescrit tel ou tel médicament, puisque en fonction, il va peut-être choisir telle ou telle forme galénique, hein, sirop
comprimé pour votre confort. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre moyen que le téléphone hein, pour transmettre ces informations entre le médecin et le pharmacien. Désormais, avec ma question médicale, le pharmacien dispose d'une interface et il va pouvoir récupérer certaines informations qui lui seront utiles pour la délivrance des médicaments. Et donc, le troisième point, c'est la possibilité pour un patient qui ne peut pas se rendre en pharmacie parce qu'il est alité ou parce qu'il est confiné ou parce que la pharmacie est trop loin, hein, qu'il y a une grande distance entre son domicile et la pharmacie, la possibilité pour lui que la pharmacie prépare en amont les médicaments ou même qu'elle puisse le livrer à domicile. Donc là, pour ce troisième point, il existe différents opérateurs selon les régions hein, en France, plusieurs start-up, mais aussi des grands groupes qui ont développé des solutions sur lesquelles on travaille. Et on a plusieurs partenaires avec qui on est en train d'avancer et de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire pour que d'ici, probablement cet été, lorsque vous avez une prescription d'un médecin sur ma question médicale, vous puissiez avoir les médicaments qui, dès la prescription, commencent à être préparés dans votre pharmacie et éventuellement puissent être livrés directement à votre domicile, moyennant, selon l'opérateur, un petit surcoût ou parfois c'est même intégré dans le prix des médicaments.
Et la communication est établie ainsi entre le médecin et le patient via cette installation en direct.
Lorsque vous allumez l'ordinateur, il est ce qu'on appelle le mode kiosque, c'est-à-dire il s'allume directement sur le site Ma Question Médicale. Vous n'avez même pas à aller cliquer dans un navigateur, rentrer l'adresse ou quoi que ce soit. Vous atterrissez directement dans l'interface qui vous permet de créer des téléconsultations et vous avez juste à vous inscrire, c'est-à-dire à vous munir de votre numéro de sécurité sociale, connaître le nom de votre mutuelle et remplir vos données, donc nom, prénom, votre date de naissance, enfin une inscription simple hein, comme il y a sur la plupart des sites aujourd'hui.
Par rapport, par exemple, quelqu'un qui vous appelle instantanément, est-ce que vous êtes prêt à le recevoir à l'instant ou alors il y a une file d'attente ou des prises de rendez-vous ?
Voilà, d'accord. Alors effectivement, chez ma question médicale, on a avant de foncer sur le chat vidéo, hein, l'interface entre le patient et le médecin, on a réfléchi aux situations du parcours de soins. Comme vous venez de le dire, il y a, on va dire, globalement deux types de situations lorsque vous consultez. Soit vous consultez sur rendez-vous, soit vous consultez dans le cadre de l'urgence. Lorsque vous consultez votre médecin, que ce soit sur rendez-vous ou de manière un peu inopinée, vous atterrissez chez ma question médicale, donc sur ce qu'on appelle, nous, la salle d'attente spécifique au médecin. C'est-à-dire que votre médecin reçoit une alerte, hein, une notification, comme sur les réseaux sociaux, il reçoit une alerte comme quoi un de ses patients s'est connecté. S'il ne voit pas l'alerte, il reçoit en plus un email, ça peut aller jusqu'au texto de rappel, hein, et il sait que vous vous êtes connecté, et donc vous allez téléconsulter votre médecin de manière à distance. Hein. Donc c'est votre médecin habituel et vous aviez convenu ou pas, mais en tout cas vous êtes en contact direct avec votre médecin. Les trois situations qui peuvent sortir de ce cadre, c'est le cadre de l'urgence. Hein. Votre médecin n'est pas disponible, nous sommes dimanche, votre médecin ne travaille pas, ou c'est le soir, par exemple, ou alors vous n'avez pas de médecin, ça arrive, hein, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin, je crois qu'il y a un Français sur trois qui n'a pas forcément déclaré de médecin traitant ou qui change de médecin traitant très, très fréquemment, donc il n'a pas de médecin traitant stable. Et enfin les enfants. Hein, les enfants font partie d'une exception. Donc dans ces situations, si le médecin habituel, si le médecin traitant n'est pas disponible pour une raison X ou Y ou qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas de médecin traitant, le système va vous renvoyer vers les médecins de proximité, c'est-à-dire les médecins les plus proches de votre territoire, hein, des médecins qui sont sur votre territoire et qui sont donc le plus proche de vous. Si aucun de ces médecins ne répond à l'appel, pour une raison X ou Y, le système va aller chercher un médecin de garde. Voilà. Et nous avons tous les jours une garde permanente hein, de médecins qui, dans chaque territoire, sont prêts à prendre le relais. Eux, ils n'interviennent qu'au-delà des 3 minutes d'attente. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 minutes d'attente, le système va déclencher ce système de garde.
L'idée du médecin de famille a disparu aujourd'hui ou va disparaître ?
Non, l'idée du médecin de famille ne disparaît pas, mais on passe d'un monde où il y avait des médecins face à une demande médicale qui était bien moindre, puisque dans l'esprit populaire, on manque de médecins aujourd'hui en France, il y aurait moins de médecins. Or, c'est complètement faux. On est 226 000 médecins en France. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France depuis même des dizaines d'années. On a suffisamment de médecins. Par contre, la répartition de ces médecins, pour des raisons de système de santé, hein, de nombreuses choses qu'il faudrait peut-être changer dans le système de santé, et puis aussi des raisons très terre-à-terre, puisque aujourd'hui, après avoir fait un internat qui est devenu obligatoire, après être devenu spécialiste en médecine générale ou dans une autre spécialité, après 10 à 12 ans de sacrifices divers et variés, les médecins veulent s'installer, comme tout le monde, hein, dans des zones où ils vont trouver, par exemple, une école pour leurs enfants, un collège, un lycée, du travail pour leurs femmes, ou si ce sont des femmes, du travail pour leurs maris. Donc, on se retrouve, malheureusement, mais c'est comme ça, avec une situation différente d'il y a plusieurs dizaines d'années. Alors, en plus, s'ajoute à cela une demande médicale qui est tout le temps croissante, c'est-à-dire que d'année en année, les types d'examens augmentent, les actes augmentent, la médecine avance, hein, les technologies avancent, les pathologies se diversifient, et la demande, elle, est croissante de manière exponentielle. Donc, ce qui se passe, c'est que si on veut que nos médecins puissent avoir une vie entre guillemets normale, c'est-à-dire que s'ils veulent pouvoir aussi avoir une vie privée, il faut qu'ils aient des outils pour pouvoir mieux communiquer avec leurs patients, mieux gérer leur patientèle, répondre à l'urgence, répondre à ce qui n'est pas l'urgence, et en fait faire ce que l'on appelle de la gestion des flux de patients en fonction des demandes en regard. Et donc le médecin de famille qui autrefois avait 300, 400 patients qu'il voyait et revoyait un nombre incalculable de fois dans l'année, avec qui il était souvent copain, il allait dîner avec eux, il allait chez eux même à minuit parce qu'il les connaissait bien, ça aujourd'hui ce n'est plus possible pour une raison déjà simple, évidente, c'est que les patientèles aujourd'hui de médecins, c'est plusieurs milliers de patients, hein, sans compter même les gens qui ne sont pas vos patients et qui viennent vous voir. Donc, on ne peut pas être copain avec 3000 patients, c'est pas possible. On ne peut pas promettre aux gens d'aller les voir s'ils sont plusieurs milliers. On ne peut pas répondre au téléphone sur son portable s'ils sont plusieurs milliers. Donc, il faut des nouveaux outils. La médecine se transforme, la médecine se modernise. Les modalités de consultation ont évolué. Il y avait autrefois la consultation et la visite. Maintenant, il y a aussi la télémédecine. Il y aura peut-être d'autres modalités dans le futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une transformation de la pratique qui est d'ailleurs qui n'est pas au désavantage du patient, puisque ce qui n'était pas possible autrefois, hein, apporter une réponse en quelques minutes à un patient, aujourd'hui, on est capable d'apporter une réponse en quelques minutes à un patient. Et même si c'est pas une réponse définitive, même s'il faut revoir le patient ensuite en présentiel dans un cabinet, ou si le patient finalement doit être hospitalisé ou autre, au moins on a la possibilité de communiquer avec le patient de manière immédiate, et ça c'est le plus important.
Oui. Au niveau des échanges entre le médecin et son patient, au-delà même de l'acte médical ou du diagnostic, est-ce qu'il y a une petite part de parole, voire de confidence que vous réceptionnez, ou qui vous permettrait aussi de guider la personne parfois ?
Alors, vous posez la question du métier de médecin. Le métier du médecin, ce n'est pas seulement de poser un diagnostic. Sinon, on ferait des robots, hein, avec des algorithmes qui poseraient un diagnostic. Le diagnostic, j'ai envie de dire que finalement, ce n'est pas ce qui est le plus dur. Alors, ça fait des très belles séries télévisées, mais ce n'est pas l'objectif du médecin. L'objectif du médecin, c'est d'abord d'éliminer ce qui est grave, ce qui est potentiellement grave, d'éliminer votre souffrance, hein, votre gêne, et enfin de vous apporter une réponse adaptée. C'est ça l'objectif d'un médecin. C'est ça le métier de médecin. Hein. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est pour ça qu'un patient qui regarde sur Internet et qui trouve une réponse, qui en général n'est pas la bonne, ce n'est pas de la médecine ce qu'il a fait. Voilà. La médecine, c'est de pouvoir partir de la plainte du patient, d'un certain nombre d'indices, hein, ce qu'on appelle des signes cliniques, d'un certain nombre de symptômes généraux, et d'arriver à trouver une réponse adaptée. Quelque part, quand vous avez par exemple, je ne sais pas moi, vous avez une entorse, le diagnostic est évident, tout le monde sait quand il a une entorse. Hein, c'est pas pour ça que vous allez voir le médecin, pas pour qu'il vous dise que vous avez une entorse. Le médecin, il est là pour vous soulager votre douleur, apporter les examens complémentaires pour savoir si ce n'est pas grave, et réaliser un examen clinique hein, qui va vous rassurer et qui va lui le rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de fracture par exemple associée, et enfin apporter toutes les réponses, par exemple l'arrêt de travail, voilà, toutes ces réponses qui vont permettre de soulager le patient. Il y a aussi cette notion de relation entre le médecin et le patient, et du patient vers le médecin, qui s'appelle le colloque singulier, et ce colloque singulier a une importance capitale en médecine. C'est grâce à cela que, par exemple, vous allez pouvoir parler à votre médecin de problématiques dont vous ne parleriez pas en dehors, par exemple à votre famille peut-être, ou à vos amis. Il se passe quelque chose entre le médecin et le patient, comme si soudainement le lieu de la consultation, le cabinet, se transformait en espèce de temple, hein, où vous expliciteriez tout ce que vous avez sur le cœur. Si on en revient par exemple à l'histoire de l'entorse, c'est une entorse, mais elle a forcément une histoire, ce qu'on appelle l'histoire de la maladie. Et donc, vous êtes tombé parce qu'il y avait une banane qui traînait, qu'elle avait rien à faire là. Vous êtes tombé parce qu'il y avait du verglas et que vous avez couru. Vous êtes tombé. Et tout ça, vous allez l'expliquer, hein, lors de ce colloque singulier, à votre médecin. En télémédecine, évidemment, ce n'est pas un lieu qui devient, ce n'est pas un cabinet qui devient cette espèce de temple du colloque singulier. C'est à distance, hein, ça se passe à distance. On retrouve ce colloque singulier. L'examen clinique est un peu plus difficile. Hein, on crée des appareils pour maintenant réaliser cet examen à distance. Il va manquer, hein, certaines choses, comme par exemple le toucher, hein, comme l'olfaction, les odeurs. Il va nous manquer des éléments. Peut-être que dans l'avenir, des technologies permettront aussi de toucher un patient à distance, ou donc pour une palpation abdominale par exemple, ou de sentir telle ou telle odeur à distance. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'existe pas vraiment, et j'invite toute personne qui serait sur un projet de recherche là-dessus à continuer ses recherches et même à nous contacter. Mais voilà, en télémédecine, ça existe également de manière différente, et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un local pour la télémédecine qui soit un local donc confidentiel, hein, une pièce de confidentialité, pour qu'on puisse avoir ces mêmes conditions de colloque singulier.
Monsieur Jean Tafazoli, en tout cas, je vous remercie de nous avoir donné du temps pour ma
Merci
question médicale, dont il suffirait de taper juste, donc tout attaché, ma question médicale, pour vous retrouver sur Internet.
Tout à fait. Voilà, donc vous avez l'application sur les smartphones, également le site Internet, et puis dans les pharmacies, les mairies équipées, le kit de télémédecine. En tout cas, voilà, vous pouvez dès à présent vous inscrire directement sur l'application ou le site.
Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Très bonne journée, merci à vous.
Au revoir.